Vous écoutez, on lit pour vous.
Un peu de fraîcheur pour beaucoup de chaleur, un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 juin 2024 dans la presse. Lors d'une vague de chaleur intense, la tentation est grande de mettre son climatiseur en marche pour profiter d'un brin de fraîcheur ou de s'en procurer un. Mais à quel prix pour l'environnement? Si l'on serrait la vis au climatiseur, combien de CO2 n'irait pas dans les nuages? Demande Jacques Mercure. Chaque été, au Québec, la vente de climatiseurs explose. Près des deux tiers des ménages québécois en possèdent un aujourd'hui, contre 54 % en 2013, selon Statistique Canada. Mais malgré la fraîcheur salvatrice qu'ils procurent, les climatiseurs ne font pas l'unanimité. C'est un débat fâcheux, admet le Dr Stéphane Perron de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. On est vraiment pris entre santé, confort et environnement. Bon pour la santé. Sur le plan de la santé, de nombreuses études réalisées dans le monde l'ont montré. Les climatiseurs sauvent des vies chaque année. Ils réduisent le risque de mortalité et les problèmes de santé liés à la chaleur, confirme un rapport publié en 2022 par l'INSPQ. De plus, la climatisation permet de diminuer l'exposition à des contaminants, composés chimiques, spores, moisissures, pollen, provenant de l'extérieur, à condition de maintenir les fenêtres fermées pendant son utilisation, de ventiler en parallèle et de bien entretenir l'appareil, en particulier son filtre. À noter cependant qu'un climatiseur réglé à trop basse température peut avoir l'effet inverse. Torticolis, mal de tête, symptômes allergiques, sécheresse des muqueuses, choc thermique, problèmes cardiovasculaires. Quand l'appareil est réglé à moins de 20 degrés Celsius, les risques pour la santé se multiplient. Gourmand en énergie. Les climatiseurs soulèvent également plusieurs enjeux environnementaux. D'après les données de Ressources naturelles Canada, en une vingtaine d'années, la consommation d'énergie utilisée pour climatiser les habitations a presque doublé. Car bien que les nouveaux appareils soient plus efficaces, de plus en plus de ménages s'en procurent. Selon la calculatrice d'Hydro-Québec, une climatisation centrale des années 1990, d'une capacité de 2 tonnes, consomme plus de 1500 kWh au cours de l'été. Cela correspond aux consommations additionnées d'une cuisinière électrique, d'un lave-vaisselle et d'une sécheuse sur un an. Mais une climatisation plus récente peut consommer environ 2 fois moins. Une histoire de gaz. Les climatiseurs posent un autre défi, celui de leur recyclage. Ils contiennent un gaz frigorifique, tout comme les réfrigérateurs, qui circule en circuit fermé et qui permet de refroidir l'air. Les gaz les plus dangereux, les chlorofluorocarbures, CFC, ont été bannis en 1985 grâce au protocole de Montréal. Ils ont depuis été remplacés par d'autres, dont l'incidence environnementale est moindre, mais non négligeable. Le problème est que, lorsqu'un climatiseur arrive en fin de vie, on a tendance à le laisser sur le trottoir. Il peut alors atterrir au dépotoir ou être récupéré par des revendeurs de métaux qui ne savent pas nécessairement comment traiter ces gaz. Ceux-ci finissent donc bien souvent par s'échapper dans l'atmosphère. Si on abandonne son climatiseur dans la rue, tous les efforts qu'on fait pour l'environnement, au quotidien, peuvent être annulés par ce geste. Résume Jules Foisy-Lapointe, directeur général de Go Recycle. Source : Projet Drawdown Go Recycle. Une tonne, quantité moyenne d'équivalent CO2 épargnée grâce au recyclage d'un climatiseur au Québec. 57,1 milliards de tonnes, quantité d'équivalent CO2 qui serait épargnée sur 30 ans à l'échelle mondiale si les climatiseurs étaient mieux gérés. Vous écoutez « Un peu de fraîcheur pour beaucoup de chaleur », un texte de Chloé Bourquin paru le 28 juin 2024 dans la presse. Monsieur Foisy recommande d'apporter son vieux climatiseur à un point de collecte de Go Recycle, seul organisme reconnu par Recyc Québec pour assurer le recyclage de ce genre d'appareil afin que ces gaz soient traités et éliminés correctement. Actuellement, l'organisme estime qu'il parvient à récupérer et à recycler moins de 2 climatiseurs sur 10 jetés au Québec. Des îlots de chaleur encore plus chauds. Dernier enjeu, mais pas des moindres, peut-être avez-vous déjà ressenti une brise d'air chaud dans une ruelle où les climatiseurs s'alignent sur la façade extérieure des bâtiments? Dans un article publié en 2020 dans la revue Environmental Research Letters, des chercheurs français ont montré que, lors d'une canicule qui a frappé la France en 2003, la climatisation a contribué à réchauffer les rues de Paris et de sa banlieue. À cause de cet air chaud rejeté à l'extérieur, certains quartiers ont vu le mercure monter jusqu'à 3,6 degrés Celsius de plus que s'il n'y avait pas eu de climatiseur. Pour Florent Barbecot, professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal, c'est là le cœur du problème. Lorsqu'on utilise un climatiseur, dit-il, ça fait du bruit et ça amène de la chaleur dans la rue. Donc, nos voisins vont s'en procurer aussi. C'est un véritable cercle vicieux. Il souligne que cela soulève aussi une question de justice sociale, puisque c'est dans les quartiers défavorisés que les personnes en possèdent moins, vivent dans des bâtiments moins bien isolés et souffrent donc le plus de la chaleur. Une question de modération. Plusieurs solutions de rechange ont été proposées par les experts interrogés par la presse, comme améliorer l'isolation des bâtiments ou créer plus d'espaces verts. Les feuilles des arbres fonctionnent comme des mini-climatiseurs à puits, Florent Barbecot. Sauf qu'un arbre, ça n'a pas d'impact environnemental négatif, c'est gratuit et ça amène du bien-être. Mais à court terme, la solution la plus efficace pour supporter les vagues de chaleur reste d'utiliser un climatiseur de façon modérée. Le docteur Stéphane Perron suggère de choisir une température située entre 22 et 26 degrés Celsius. Un conseil qui ne se limite pas aux particuliers. Dans le monde, nombre d'entreprises et d'institutions s'engagent à avoir la main plus légère sur la climatisation. Au fur et à mesure que les changements climatiques progressent, malheureusement, les climatiseurs vont être de plus en plus indispensables. Le but est de tenter de les utiliser intelligemment, dit-il. Autre nouvelle environnementale. Chiffre de la semaine. 100%. Des chercheurs danois sont parvenus à créer un nouveau bioplastique qui serait 100% biodégradable et compostable, fait d'amidon, que l'on trouve dans le blé, le maïs, l'orge et la pomme de terre notamment. Il est résistant, étirable et se décomposerait, d'après eux, en 2 mois seulement. Il pourrait, par exemple, remplacer le film plastique utilisé pour emballer la nourriture. Les scientifiques ont fondé une entreprise appelée Plant Carb, obtenu un brevet et cherche maintenant des partenaires pour commercialiser leur invention à grande échelle. Avis aux amateurs. Feu vert. Recyc Québec incite à réduire ses déchets de déménagement. Une tonne de déchets à jeter. 1-866 déchets, 1-866-332-4387. Peut-être avez-vous vu ces grandes affiches vertes placardées un peu partout à Montréal ces derniers jours? En appelant à ce numéro, on tombe sur un message de Recyc Québec. Cette boîte vocale est pleine, tout comme la majorité des sites d'enfouissement sur la planète. L'organisme propose ensuite de télécharger son application « Ça va où ?» pour savoir comment se départir de ses déchets de déménagement. Il a dit « Avoir la chance de réintroduire une espèce qui a disparu au niveau national, c'est un cadeau », a dit Dan Calderon, hydrobiologiste de l'Association des pêcheurs de Suède, lorsqu'il a mis à l'eau le 18 juin dernier, dans le fleuve Gotha-Alv, une centaine de jeunes esturgeons noirs provenant d'Allemagne. Cette espèce avait disparu du fleuve il y a un siècle à cause de la surpêche et de la mauvaise qualité de l'eau. Source AFP. C'était « Un peu de fraîcheur pour beaucoup de chaleur », un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 juin 2024 dans La Presse.
Les poissons boivent-ils? Un texte paru le 16 juin 2018 dans le magazine Québec Science. Quand on vit dans l'eau, a-t-on besoin de boire? Ça dépend. Certains poissons semblent avoir une soif inétanchable, alors que d'autres ne boivent jamais. Pourquoi? Il faut savoir que les branchies, les structures par lesquelles les poissons respirent, laisse facilement passer l'eau vers la circulation sanguine. Les poissons peuvent donc absorber de l'eau sans boire. Cela dit, ils peuvent aussi en perdre par le même organe. La direction de ce mouvement est dictée par le principe d'osmose. Les molécules d'eau se déplacent toujours du milieu le moins salé vers le plus salé. Tout comme nous, les poissons doivent maintenir une certaine concentration de sels minéraux dans leur sang pour rester en santé. Cette concentration est plus faible que celle de l'eau de mer, mais plus élevée que celle de l'eau douce. Dépendamment du milieu, les poissons font donc face à des stress osmotiques totalement différents. Dans les océans, les poissons sont constamment en train de perdre de l'eau par leurs branchies. Pour compenser, ils boivent sans arrêt. Afin d'évacuer les surplus de sel avalé, leurs reins fonctionnent à plein régime. Ces poissons produisent une urine très concentrée. Pour les poissons qui vivent dans les lacs et rivières, non seulement il n'est pas nécessaire de boire vu l'apport constant en eau qui s'effectue par les branchies, mais il est également nécessaire d'expulser l'excédent via de très grandes quantités d'urine pour ne pas que le sang soit trop dilué. Qu'en est-il des espèces, comme le saumon atlantique, qui passent d'un milieu à l'autre au cours de leur vie? Avant de s'aventurer en eaux inconnues, une période de transition s'impose. Des changements physiologiques s'opèrent dans leur organisme pour leur permettre d'affronter leur nouvel habitat. C'était « Les poissons boivent-ils ?», un texte paru le 16 juin 2018 dans le magazine Québec Science.
Le cas de maladies qui momifient sont en hausse au Québec, surtout chez les jeunes. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 11 juillet 2024 dans Le Devoir. Les cas de sclérodermie systémique, surnommée la maladie qui momifie en raison du durcissement de la peau et des tissus internes qu'elle provoque, sont en augmentation au Québec, plus particulièrement chez les enfants et les jeunes adultes. Des facteurs environnementaux pourraient être en cause, selon des chercheurs. C'est ce que révèle une étude publiée en juillet 2024 dans la revue The Lancet Regional Health America. De 1996 à 2019, le nombre de nouveaux cas de cette maladie auto-immune rare et potentiellement mortelle a grimpé d'environ 3,3% par année chez les Québécois, tous âges confondus. Quant à ceux âgés de 0 à 19 ans, on parle plutôt d'une hausse d'environ 9,5% par année pour cette même période. Avant, la sclérodermie systémique était excessivement rare chez les enfants. Maintenant, ça l'est un petit peu moins, souligne Elena Netchiporuk, l'une des autrices de l'étude et professeure adjointe à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. De 1996 à 2019, le nombre de cas moyens à l'échelle de la province s'élevait à 29 personnes sur 100 000, tous âges confondus, relève-t-elle. Plusieurs facteurs pourraient expliquer l'augmentation de nouveaux cas de cette maladie chez les jeunes et dans le reste de la population, avance-t-elle, en précisant ne pas avoir de réponse 100% claire à cette question pour l'instant. La plus grande facilité à diagnostiquer la sclérodermie systémique peut en être une, dit-elle en entrevue au Devoir. En général, cette maladie touche surtout les personnes plus âgées, ajoute Elena Netchiporuk. Une certaine partie de l'augmentation de nouveaux cas pourrait être due au fait que la population vieillit. Des facteurs environnementaux pourraient également expliquer en partie cette hausse de la maladie chez les enfants et dans les autres groupes d'âge, poursuit-elle. Je pense qu'il faut aller explorer davantage du côté de la pollution atmosphérique et de la pollution industrielle. Elle souligne aussi que les nouveaux cas de la maladie sont plus concentrés dans l'Est et dans le Nord du Québec que dans les autres régions. Ça peut avoir un certain lien avec des industries qui sont situées dans ces endroits-là et qui peuvent émettre certaines particules dans l'air, affirme la professeure. Mortalité en baisse. Si le nombre de nouveaux cas de sclérodermie systémique augmente au Québec, le taux de mortalité, lui, est en baisse depuis une vingtaine d'années, se réjouit Mme Netchiporuk. En 1996, une personne atteinte de cette maladie avait 4,2 fois plus de risques de mourir qu'un Québécois de même âge et de même sexe qui n'avait pas la sclérodermie systémique, détaille-t-elle. En 2019, ce taux s'élevait à 2,6. Je pense que c'est l'arrivée de meilleurs soins, de meilleurs traitements, de meilleurs dépistages et des diagnostics précoces qui expliquent cette amélioration sur le plan de la mortalité, souligne la professeure. La sclérodermie systémique demeure cependant une maladie difficile à traiter, ajoute Elena Netchiporuk. Selon elle, il est donc essentiel de mener plus d'études pour bien cibler ce qui cause la maladie. On a déjà commencé à le faire, mais il faut permettre aux chercheurs de vraiment bien comprendre l'impact qu'a l'environnement dans lequel on vit sur notre santé. Madame Netchiporuk affirme aussi qu'il est essentiel de fournir les soins adéquats aux populations des régions les plus touchées par la hausse de nouveaux cas de sclérodermie systémique, notamment en y envoyant des spécialistes. Elle souligne également la nécessité d'éduquer davantage les patients aux gestes qu'ils peuvent faire pour réduire la sévérité de la maladie. S'ils fument, il faut vraiment les soutenir dans l'arrêt de la consommation de tabac. C'était « Les cas de maladies qui momifient sont en hausse au Québec, surtout chez les jeunes », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 11 juillet 2024 dans Le Devoir.
Juneteenth au musée. Un texte de Patrick Lagacé paru le 23 juin 2024 dans la presse. Washington. Derrière moi, le visiteur parle à sa femme, mais assez fort pour que tout le monde autour entende. Tous les Blancs ici portent une part de responsabilité. Tout ça, ça existe encore. C'était au mois de mars 2024, à ma première visite au Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, le dernier né, 2016, et sans doute un des plus remarquables de la Smithsonian Institution, qui gère 21 musées gratuits dans la capitale américaine. La visite commence dans le sous-sol, avec l'histoire de l'esclavage. L'architecture même de ce passage vous comprime insensiblement pendant que vous voyez les images des bateaux où l'on couchait enchaîné, des Africains capturés pour être vendus en Amérique, avec un faible taux de survie très souvent. La fameuse « porte du non-retour » de l'île de Gorée, au Sénégal, n'était qu'un point de départ parmi des dizaines d'autres le long de la côte atlantique pour les captifs envoyés vers les plantations du Brésil. 5,8 millions d'Africains y ont été vendus. Des Caraïbes, des États-Unis, 3,3 millions. Je me suis approché du visiteur en colère. Il a cru devoir s'excuser. « Je suis désolé si je vous ai insulté, monsieur, je me suis emporté. »« Il n'y a vraiment pas de quoi, monsieur. » Tout ceci est bouleversant. C'est comme si mon accent avait décontracté l'atmosphère, me dédouanant d'une culpabilité historique symbolique par association du blanc américain. Je ne suis pas entré dans les subtilités de l'histoire de l'esclavage en Nouvelle-France, me contentant d'être une sorte de Suisse observateur neutre. J'y suis retourné cette semaine, pendant Juneteenth. Juneteenth, contraction de June et de 19th, commémore la fin de l'esclavage aux États-Unis en 1865. C'est le 19 juin de cette année-là que l'émancipation a été annoncée au Texas, après les autres États confédérés. La commémoration de la libération existe depuis le 19e siècle dans les communautés noires, mais depuis 2021, la célébration est un jour de congé fédéral officiel. Un peu comme ce jeune musée, dont l'idée remonte à 100 ans, Juneteenth vise à faire entrer à part entière dans la lumière de l'histoire nationale le récit encombrant de l'esclavage et du racisme. L'idée des architectes Freeland, Adjaye et Bond et des concepteurs consistait à construire le récit de l'esclavage non pas en termes généraux, mais à la première personne, à travers quelques histoires intimes, quelques objets. Une case où vivaient 12 personnes, des entraves rouillées, le petit mouchoir brodé de l'abolitionniste Harriet Tubman. Des corridors étroits, on débouche sur une immense salle. On respire mieux. On peut lire la Déclaration d'indépendance de 1776, acte fondateur du pays, que des générations d'Américains ont apprise par cœur. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Lire et peser chacun de ces mots dans l'œil afro-américain leur donne une autre dimension. Car évidemment, ces droits inaliénables pour tous les hommes, nés pour être libres, ne concernaient pas les millions d'entre eux qui ne le seront que 89 ans après l'indépendance. Ces mots révolutionnaires, grandioses, sont écrits de la main de Thomas Jefferson, homme éclairé s'il en fut, mais propriétaire de 607 personnes en Virginie. Il n'en a pas affranchi 12 de toute sa vie. Père de 6 enfants de Sally Hemings, sa bonne est juridiquement sa chose. Il ne les a jamais reconnus. Le fait a longtemps été nié par l'histoire officielle jusqu'à ce que des tests d'ADN en fassent la preuve, il y a 26 ans seulement. Ce genre de détail historique fait encore trop désordre pour certains. Un visiteur blanc m'a déjà dit « C'est impossible. Jefferson n'aurait jamais couché avec une femme noire », me dit la guide afro-américaine, encore estomaquée des années plus tard, de s'être fait dire ça en pleine face. Il faut parfois gérer les émotions des visiteurs. J'ai vu toutes sortes de réactions au fil des ans. Des gens sont en colère, d'autres pleurent, certains ne peuvent pas le prendre, mais la plupart sont simplement attentifs et concentrés, me dit la guide. C'est pourquoi on a emménagé une cour intérieure contemplative. C'est là, devant le puits de lumière et la chute d'eau, que se tenaient les Nelum, une famille du Texas. Ma mère avait besoin de se recueillir au calme, me dit Jordan, 24 ans, diplômé de l'Université du Texas et de Texas A&M. Il en était à sa 10e visite. Il habite maintenant à Washington et travaille pour la Century Foundation, un think tank progressiste, grosse industrie à DC, les think tanks. On a beau savoir, c'est une autre chose que de se plonger comme témoin, j'allais dire personnellement, dans ces siècles de servitude qui ont une résonance encore aujourd'hui. Je voulais pleurer. Je voulais crier, dit sa mère, Audrey Nelums, qui connaît très bien l'histoire, juste à cause de la couleur de leur peau. Des gens comme moi ont été vendus comme des objets. Comment est-ce possible? Au moins, je me réconforte en pensant que des gens qui avaient votre couleur de peau ont marché à nos côtés pour nos droits. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère était en esclavage au Texas. Son histoire nous a été transmise de génération en génération. Ma grand-mère ne l'était pas, mais elle me disait qu'elle mangeait ce qui tombait sous la table dans la maison des Blancs où elle travaillait. Des gens très gentils, cela dit. La femme de 58 ans s'est recueillie quelques instants, au son apaisant de la chute. Elle a lancé une pièce dans la fontaine. Il ne faut pas en rester là. Il faut monter aux étages supérieurs pour voir le chemin parcouru et celui qui reste à faire, dit Troy, son mari. Les étages supérieurs, lumineux, sont consacrés à la culture afro-américaine, musique, arts visuels, littérature. Une série de grandes danses improvisées avait lieu dans le hall mercredi. Les visiteurs se mêlaient et se joignaient aux chorégraphies approximatives comme une méditation joyeuse avec les jambes. Il faut se souvenir. Il faut regarder le passé en face. Mais ces jours de fête aujourd'hui, c'est la fête de la liberté. C'était Juneteenth au musée, un texte de Patrick Lagacé, paru le 23 juin 2024 dans La Presse.